L'œil du phare, chapitre 12, fortune léguée et fortune acquise. La dame, veuve Charles Dupin, avait conservé de sa jeunesse campagnarde une mentalité généreuse et douce qui trouve un âpre plaisir dans la bonté. Faire du bien aux autres était pour elle un agrément autant qu'une vertu. Aussi, le bon accueil, les attentions obligeantes dont ils avaient été l'objet auprès d'elle depuis 2 ans, n'avaient-ils cessé un instant d'imposer à Jean Pellerin et à son épouse la plus grande vénération pour cette bonne tante. Et celle-ci entretenait l'ardeur de son cœur maternel dans l'affection de ce jeune ménage qui lui offrait le simulacre rapproché de l'autre auquel il lui tardait de prodiguer ses tendresses. Ce jour heureux allait enfin venir. Il sera d'autant plus heureux que la part si largement faite à l'affection gratuite ne laissera rien d'enviable à l'affection naturelle. Jean le sait bien, et parce qu'il le sait trop bien, pour user de discrétion dans sa reconnaissance, il a pris soin, tout naguère, car il en a maintenant les moyens, de s'installer un foyer personnel dans le voisinage immédiat de la résidence Dupin. C'est pour lui un légitime sujet d'orgueil de faire voir à son cousin que durant ce peu de temps, docile à ses conseils et grâce à son aide, il est devenu un homme dans ses meubles, un industriel de valeur, un personnage en vue. Aussi, quand le docteur Dupin reprit la place qui lui avait été scrupuleusement ménagée si grande au milieu de cette allégresse, son esprit déjà blasé de voyageur, son cœur déjà travaillé par un sentiment dont il n'aurait pas voulu jadis reconnaître ni la sérénité ni la force, commencèrent à s'impressionner de cette vérité. Qu'il y a bien sur la terre un endroit spécial où le bonheur intime et familial chante au cœur et à l'esprit, comme il le fait nulle part ailleurs. Ô foyer domestique des peuples chrétiens! Maison paternelle où, dès nos premiers ans, nous avons respiré avec la lumière l'amour de toutes les saintes choses. Nous avons beau vieillir, nous revenons à vous avec un cœur toujours jeune, et n'était l'éternité qui nous appelle en nous éloignant de vous, nous ne nous consolerions pas de voir chaque jour votre ombre s'allonger et votre soleil pâlir. Émile Dupin n'était pas un homme de lucre, un faiseur d'argent. Héritier de la fortune laborieusement édifiée par son père, pour agir sagement, il croyait n'avoir à se donner d'autres soucis que d'en user sans en abuser. Par ailleurs, en conservant de grands intérêts dans l'aciérie, il n'avait plus qu'à surveiller de loin le rapport de ses valeurs et laisser travailler les autres à l'exploitation de ses capitaux. Tâche qui, si désirable qu'elle le semble à bien des gens, pourrait aussi peut-être quelquefois devenir fastidieuse, comme ne l'est pas l'édification même de la fortune. Cependant, lui, satisfait de son avoir, il ne souffrira pas de l'apprêter au gain. A-t-il jamais travaillé en vue d'un gain? Tout ce qu'on a demandé à sa vaillante jeunesse n'a été que son perfectionnement personnel pour jouir à bon escient de sa richesse. Ses connaissances professionnelles, nous le savons, il n'entend pas les mettre à profit au chevet des malades, mais en utiliser l'apport dans l'observation et l'appréciation des choses de la vie intellectuelle. S'il eût été lui-même à la peine de gagner sa fortune, comme à tant d'autres, l'acquis du premier million n'aurait pu lui suffire. Or, il n'a eu jusqu'à présent qu'à ordonner ses désirs de manière à ne pas les diriger à l'abus, vu les moyens tout près dont il disposait pour les assouvir. Cependant, à cause de cet état de choses et de sa mentalité, sur la vie si heureuse d'Émile Dupin, vont maintenant passer des nuages qu'il n'a pas prévus. Madame Dupin, la jeune, est une Américaine de langue anglaise, affable, bonne, de grande intelligence et d'une belle éducation à l'américaine. Ses qualités morales en font une femme bien digne d'être aimée, et elle l'est, sans réserve et sans mélange, depuis le jour où son époux, qui a noble cœur, a voulu faire un mariage d'amour, et nullement de ceux qu'on appelle de convenance ou d'argent. Élevée dans ce milieu d'utilitaire, elle aurait pu, comme ses congénères, cultiver l'admiration des faiseurs d'argent et seconder les initiatives industrielles et financières de cet époux généreux. Mais les séjours qu'elle a faits dans les plus grandes villes du vieux monde, au début de sa vie domestique, ont modifié en cela son éducation à l'américaine. C'est une vie factice qu'elle a vécue durant ses 2 années de voyage à l'étranger, où elle s'est habituée à voir changer les scènes avec un intérêt provisoire et trop impersonnel, comme au théâtre. Pourvu que la scène change à vue, dussent ses désirs devenir caprices, c'est ainsi pour elle qu'il fera bon de vivre. Fils de travailleur, Émile Dupin, au contraire, n'a pu éliminer tout à fait de son caractère ce qu'ils lui ont transmis de l'ardeur inquiète dans l'emploi du temps, qui fait les vaillants et les parvenus. Et le jour n'est pas éloigné maintenant où il souffrira secrètement de vivre sans autres objectifs que ceux de l'inutile jouisseur. L'inanité de sa vie lui apparaît de plus en plus pénible à mesure qu'il voit prospérer ce cousin du Canada, qu'il a lui-même relevé de son abjection, ce déraciné qui provigne dans un terroir nouveau où lui-même, si somptueusement qu'il le fasse, ne sait plus que végéter. Ah, s'il avait au moins la passion des honneurs publics, qui, dans l'agglomération sociale et démocratique de ce vaste État, conduit au pinacle, complète tant de carrières au début besogneuses. Il n'a pas cette passion. Il est mal préparé à la recherche de ses honneurs. L'esprit public, l'amour national, n'a apporté aucun ferment au sang canadien qui circule dans ses veines. Ses enfants, peut-être, ce cher fils qui vient de lui naître et dont l'existence encore si frêle l'impressionne déjà d'un sentiment complexe, réunissant le souvenir de ses pères à l'honneur futur de son nom, ses enfants peut-être aimeront mieux, serviront mieux la patrie américaine dans la vie ou dans la mort. Lui n'a pas d'autre chose à offrir, à remettre à cette patrie d'emprunt que son argent. Et tout son bonheur actuel ne serait pour ainsi dire qu'un bonheur d'emprunt. Il regrette de ne pas le devoir exclusivement à son mérite personnel. Il reconnaît l'impérieuse obligation d'en assurer la transmission dans la survivance canadienne et française de sa lignée. Jean Pellerin, lui, n'en est pas à ses langoureux soucis. La livrée du travail qu'il avait revêtue à titre de mercenaire est devenue à la fois son armure et sa gloire. L'aisance à son foyer, la haute considération dont il jouit dans la société qui l'entoure, tout lui vient de ce travail et rien d'aucun testament. Il aime donc passionnément cet état de vie qu'il s'est créé. Il lui consacre tous les efforts de son intelligence avec la reconnaissance de son cœur. Généreux travail qui fera de la sueur de son front une auréole vénérable aux yeux de tous les siens laissés après lui sur terre. Et s'il se trouve ainsi en contrepartie avec son cousin désœuvré, sur certains rapports il en est de même des deux femmes. Rose Després voit en son mari autre chose qu'un mandataire, usufruitier provisoire d'une fortune destinée à ses enfants. Il borne de tous côtés son horizon, mais le champ d'activité au milieu duquel il l'a fait vivre est assez vaste pour satisfaire toutes ses aspirations raisonnables d'épouse dévouée. Elle n'a connu que la pauvreté de son village natal et la générosité du travail qui édifie leur avenir. Cela suffit à son bonheur. N'ayez crainte qu'elle ne porte jamais envie au faste de l'autre famille. Elle se contentera de l'admirer d'un œil plutôt reconnaissant. L'humilité jamais démentie de son côté entretiendra entre les deux maisonnées, pour la plus grande consolation de la vieille maman, une bonne entente indéfectible. Cependant, leur manière personnelle d'entendre la vie, en jouissant de ses bonheurs, vont bientôt et pour quelque temps diverger. Les années s'écoulent et elles passent rapidement quand on est heureux. Les deux familles s'accroissent et se développent. C'est une bénédiction pour les deux cousins dont elles portent les noms, mais combien plus surtout pour Émile Dupin, qui trouvera dans l'éducation de ses enfants la préoccupation non seulement légitime, mais nécessaire à la disposition normale de sa vie. Elle l'empêchera, durant ses belles années, de sentir toute l'acuité du mal dont le virus menace d'empoisonner son sang de roturier, l'ennui dans la richesse et le désœuvrement. C'est à cause du soin, de l'affection bien entendu à répartir aux chers petits, que monsieur et madame, par exemple, après quelques années de séjour à Cincinnati, ne sont pas repartis en ces voyages lointains et fashionables que celle-ci a tant aimés. Elle s'en console, oui, dira-t-elle, parce qu'elle est bonne mère et que l'on se doit avant tout à sa famille. Et si le docteur Dupin bénit aussi à ce propos ses enfants, c'est parce que la responsabilité paternelle s'accroît, chez lui, du désir honnête de leur transmettre des biens qu'il n'a pas acquis par son travail, avec toute la dignité du nom canadien qu'il doit leur laisser dans leur nationalité semi-canadienne. En effet, chose étrange peut-être, ce Canadien français, né en pleine démocratie méli-mélo des États-Unis d'Amérique, époux modèle de sa femme irlandaise qui fut tout son amour, entretient le culte du nom familial qu'il lèguera à ses enfants comme s'ils avaient été de race nobiliaire. Il a fait de la langue française celle de son foyer, sans préjudice pourtant de la langue maternelle à titre d'auxiliaire indispensable. Avec la religion et la langue de ses pères, que lui manquerait-il donc pour conserver leur nationalité? Le sol natal, trop récemment déserté. Mais cela ne lui suffit pas pour justifier à ses yeux l'apostasie nationale. « Qui prend mari, prend pays », dit l'adage populaire. Il est plus facile à Madame Dupin de pactiser avec ce sentiment national, car trois générations des siens ont forcément perdu de leur verdeur native depuis leur transplantation dans le terroir américain. Depuis trop longtemps, le regret de la patrie absente est devenu pour eux platonique. La langue du pays d'adoption ne leur a demandé aucun renoncement, et leur sens religieux s'accommode aisément du catholicisme américain, ne serait-ce que celui de la Dancing Church. Partant, la famille d'Émile Dupin restera plutôt de race canadienne-française, parce que lui-même, grâce à ses études et à ses relations sociales, a su conserver l'usage de la langue et des coutumes françaises. Or, la volonté de durer est la base essentielle du sentiment national. La nationalité, c'est la culture soigneuse des pensées et des habitudes de vie nationale qui nous sont plus chères que d'autres parce qu'elles sont essentiellement nôtres. Tout comme les coutumes familiales ont pour chacun de nous une saveur particulière et évoquent spontanément en nos âmes la douceur des liens de famille et une multitude de souvenirs intimes et familiers. Jean Pellerin, lui, n'avait eu à conserver des siens comme patrimoine pour le transmettre à ses enfants avec la pureté de sa race que les sentiments d'un cœur bien né et de tristes souvenirs. La vie qui lui sourit maintenant, il en doit les beaux jours à son mérite personnel d'abord, bien qu'il se garde de mettre en oubli aucune des faveurs venues en aide à ce mérite. Il irait même jusqu'à faire la part de reconnaissance trop large à cette patrie adoptive qui lui a donné son pain, dira-t-il, si la patrie canadienne qui lui a donné la vie n'avait laissé aussi profonde dans sa mentalité et dans celle de sa femme son indélébile empreinte. Mais provisoirement, il est trop pris dans le tourbillon des intérêts matériels, par la jouissance de s'enrichir pour rien sacrifier au sentimentalisme national. En pleine moisson, il ne songe pas encore, pour en souffrir, à l'ultime journée du chômage. Cependant, l'heure viendra, où, sous l'exemple de son cousin, il reconnaîtra la sagesse du bon curé de Saint-Germain, qu'il a fait marier au village natal avant son exil volontaire. Entre-temps, durant quelques années, c'est lui qui aura à combattre la fascination antipatriotique que l'instruction et l'amour paternel dissipent de jour en jour à l'esprit de son cousin. Autrefois, celui-ci était surtout pour lui l'homme secourable dans la pauvreté. Il est devenu l'homme sage et de bon conseil dans l'enthousiasme. « Émile, lui dit-il un jour, j'aimerais bien prendre ton avis sur un projet qui m'occupe. Le capital action que je possède maintenant dans la compagnie va m'obliger d'accepter la charge de vice-président au bureau des directeurs. Mais on y voit sinon un obstacle absolu, du moins un certain inconvénient. Je ne suis pas citoyen américain, légalement reconnu, et il me faudrait demander des lettres de naturalisation, ce que je ne veux faire sans ton avis. Je t'y prends, mon cousin, et tu ne me dis pas tout. On veut aussi porter ton nom sur le ticket républicain en vue d'un honneur civique dont tu ne parles pas. Moi-même, citoyen américain, je ne vais pas t'apprendre qu'il y a crime à le devenir. Cependant, moi, je l'ai toujours été sans aucune contrainte sur ma volonté. Chez toi, il faut se demander quel renoncement cela peut comporter. J'apprends tous les jours qu'on ne dépouille pas la défroque nationale comme un simple habit d'enfance, en grandissant, pour revêtir de beaux atours qui ne satisfont ensuite que l'orgueil. C'est quand il faut tailler dans cette étoffe-là pour en vêtir nos enfants, leur conserver le chaud du cœur et du sang, que l'inquiétude commence. J'en suis là, tu le sais. Comme les miens, tes enfants seront aussi canadiens-français. Tu es bien heureux de n'avoir pas à revenir là-dessus des préjugés de mon éducation américaine. Et puisqu'il en est temps encore, ménage-toi des issues dégagées. Car il nous faudra bien revenir, sais-tu, moi, de mon utilitarisme américain, dont je me faisais si fier, la première année que nous nous sommes rencontrés au Canada. Et toi, revenir aussi de tes rancœurs d'expatriés contre ton pays d'origine où ta jeunesse fut malheureuse. Si peu que l'homme s'élève au-dessus du niveau de la vie matérielle, il éprouve un ennui que ne saurait satisfaire les biens de ce monde. Il lui faut chercher sa consolation, ou dans la tradition, ou dans sa survie. Nous en sommes là l'un et l'autre, et parce que je t'ai fait part un jour de mes lubies de jeune homme, je te dois, je me dois aussi, de te faire connaître pourquoi et comment je me crois aujourd'hui tenu d'y renoncer. Maintenant, est-ce à dire que tu ne seras pas citoyen américain? Non, mais n'aspire pas à monter trop haut dans cette échelle-là. Fais-toi naturaliser, fais-toi élire warden, je ne dirais pas gouverneur de l'État, mais ne va pas trop loin. Attends-moi sur le chemin qui t'éloigne du Canada, puisque nous devrons peut-être y revenir avec nos enfants. Surtout, et cela je te le défends, garde-toi bien avec tes lettres de naturalisation de t'affilier jamais à ces sociétés, secrètes ou non, qui détruisent chez l'homme le caractère national pour en faire un cosmopolite. Et ne te laisse pas piquer par la tarentule politique qui tuera chez Jean Pellerin le Canadien. À mon tour de te questionner, que penses-tu, Jean, de mes idées nouvelles? Je ne pense pas encore. Je me demande seulement si j'entends parler le charmant cousin Émile, dont les théories et la conversation jadis, à bord d'un yacht, avaient tant impressionné ma jeunesse, au grand déplaisir de mon précepteur quand il put le constater. Je cherche ce qui me l'a pu changer ainsi. C'est facile à dire, va. Ce qui m'a changé les idées, c'est la vie qui a fait d'un étudiant trop léger un père de famille ne songeant plus qu'à sa survie. Un peu plus tard aussi, après t'avoir retrouvé loin de notre pays natal, à l'un et à l'autre, j'ai senti à Rome combien il faisait bon de vivre catholique. Et en France, pendant les séjours répétés que nous y avons faits, combien j'étais fier d'être né français. Or, aujourd'hui, que ma plus grande préoccupation est de préparer leur avenir, je veux que mes enfants soient avant tout catholiques, suivant l'ardent désir aussi de leur mère, mais de mentalité française, puisqu'elle y consent par amour et générosité. À courir ce monde, en observant les mœurs nationales des peuples, non pas ici, dans ce grand creuset démocratique où elles fusionnent, mais là où elles ont été conservées pures de tout alliage. J'ai compris, comme l'a écrit Daudet, que l'on ne peut faire de la France avec de l'Allemagne. J'ai voulu comprendre encore, en étudiant cette fois la simple philosophie de la vie, au milieu des sociétés diverses, que le vrai bonheur en ce monde n'est pas la fleur du matérialisme, mais de l'idéalisme, et qu'il faut remonter jusqu'au surnaturel pour en trouver la plus parfaite éclosion. Y es-tu, Jean ? Pas tout à fait. Et je regrette que mon cher curé de Saint-Germain n'y soit pas non plus pour t'entendre et s'épater. Chapitre 13. Nostalgie. Au milieu du parterre fleuri sur lequel s'ouvre la somptueuse demeure de la famille Dupin, un groupe de jeunes garçons et de fillettes se livrent à de joyeux ébats. Aux éclats de leur voix, comme aux paroles intimes qu'ils échangent, on reconnaît le sans-gêne d'enfants apparentés, et pour l'observateur un peu mieux averti, des jeunesses qui seront bientôt soumises à la dure épreuve de l'éloignement du foyer familial. Sur la véranda, leur papa les regarde avec émotion, parce qu'en ces derniers jours de vacances d'été, une grande détermination a été prise, qui va temporairement, et définitivement peut-être, modifier leur bonheur domestique. Depuis quelques années, les idées du docteur Dupin sur l'éducation à faire des siens, loin de s'atténuer, se sont accentuées davantage. Il a pris comme un malin plaisir, dirait-on, à y rallier son cousin Jean, que l'intérêt et l'agrément de vivre riche s'en allaient égarer dans l'américanisme industriel. N'ayant presque rien d'autre à faire, en bonne situation pour cultiver l'idée fixe et le parti pris, que de fois n'a-t-il pas entretenu et même scandalisé l'émigré canadien de ses rengaines sur le mercantilisme qui tient l'homme terre à terre, sur son perfectionnement éducationnel par les études abstraites qui l'élèvent au-dessus des misères et des ennuis de la vie. Enfin, sur les mille bonnes raisons qu'il a trouvées pour devenir à son tour classique, depuis le jour où il se moquait de Virgile et en lui de la culture intellectuelle à base de grec et de latin. Aujourd'hui, quand il veut confondre Jean par un dernier mot dans leur discussion à ce sujet, il ne manque pas de lui dire que cette culture-là affine le caractère ethnique et que c'est elle, sur les brisées du christianisme, qui a civilisé l'Europe. Le grec et le latin aristocratisent un cerveau, lui dira-t-il avec un moderne français. C'est une fenêtre sur 4000 ans d'humanité, et quelle humanité! Les études primaires, c'est le rez-de-chaussée, c'est la vue barrée. Les études secondaires nous font monter aux étages supérieurs, d'où la vue s'étend sur des horizons infinis. Et c'est ce qui nous explique pourquoi un primaire aura très vite des idées impératives sur beaucoup de choses, précisément parce qu'il les voit restreintes, parce qu'il a le nez dessus, et qu'elles ne prennent pas leur minuscule place dans l'ensemble de toutes celles qu'il ne soupçonne même pas. À remplacer les belles lettres et les arts libéraux par les chiffres et les arts pratiques, ajoutera-t-il. L'expérience en est là dans certains pays trop modernes. On conduit la mentalité des races à la déprédation barbare ou à la boxe. L'estime et la reconnaissance aidant, Jean s'est laissé convaincre. Et voilà pourquoi, dans ce groupe de jeunes gens qui s'amusent et folâtrent au milieu du parterre fleuri, il y en a trois dont les ébats sont plus bruyants parce qu'ils trahissent chez eux une nervosité insolite. C'est demain que monsieur et madame Dupin partiront avec leur fils, leur fillette et l'aîné Charles-Émile Pellerin pour les conduire au Canada, où l'on fera des études classiques et françaises. « Je regrette, Jean, dit Émile à son cousin, que tu ne puisses venir avec nous. Je n'ai pas oublié l'ineffable impression que je ressentis en rentrant au foyer à mon retour d'Europe. J'aurais voulu t'en voir subir l'effet. Car tu sais, ce n'est pas vrai. La patrie, ce n'est pas l'endroit où l'on est bien, où l'on jouit des choses matérielles. Je l'ai bien senti, après la vie pourtant si heureuse que je faisais là-bas, quand j'ai revu ce milieu où j'ai commencé la vie. Et pourtant, ici, malgré les éléments de bonheur apparents qui nous entourent, nous sommes encore des sans-patrie. Il avait raison, ton vieux curé de Saint-Germain, de se récrier contre l'aphorisme « Ubi bene, ibi patria ». S'il vivait encore, le cher vieillard, j'aurais grand plaisir à aller lui en faire l'aveu, comme d'une erreur de ma jeunesse. Et résumant tout cela dans une plaisanterie, il s'écriait, comme Louis Veillot en Algérie, « Ah, chien de chien que je suis français !» Jean, trop intimement ému lui-même, fait bonne contenance en le laissant dire. Elle est plus que jamais évidente, l'évolution qui s'est également opérée dans son esprit en ces derniers temps. Aussi longtemps qu'il a vécu à demi dans la chrysalide de sa pauvreté, l'appétence de son essor futur sur les ailes de la fortune, en accaparant toutes ses énergies, ne laissait que peu d'emprise aux regrets du passé. Mais aujourd'hui que les inquiétudes éliminées de l'avenir y ont fait place plus grande, ils affluent ses souvenirs, à son esprit assagi, parce qu'il a vécu, à son cœur inquiet, parce qu'il est père. Notre destinée n'est pas un phénomène présent à nos regards, elle embrasse un passé qui nous est invisible, un avenir qui l'est également. Les autres, une fois partis, Jean, sa femme et la tante Dupin évoqueront de mieux en mieux ces choses invisibles du passé pour leur demander le pronostic de celles de l'avenir. Mais avec ces soucis, grandira dans leur âme et tout leur être le malaise pour eux encore indéfinissable de la nostalgie. Ils sentiront d'abord combien il leur serait doux de revoir avec leurs enfants le pays de leur jeunesse, la scène première des appréhensions de leur existence, maintenant que les vicissitudes alors imprévues sont irrévocablement aussi choses du passé. Et le magnétisme de leur affection pour ceux qui s'en vont au Canada attirera leurs pensées vers la vie canadienne, d'autant plus irrésistiblement que la sensation orgueilleuse de leur bien-être social y convie leur amour-propre de parvenu. Pourtant, l'exil, on lui donnera plus volontiers ce nom désormais, leur sera de plus en plus pénible. Il est vrai que l'on vit dans l'opulence, mais que de choses encore n'ont cessé de regretter secrètement. Jusqu'à cette heure, la vieille tante et la nièce canadienne, originaires de la même paroisse. Elles n'ont jamais bien compris ni vécu normalement la vie américaine. Aussi longtemps que son mari a vécu, la veuve Dupin s'est trop identifiée avec lui dans les aspirations du prolétaire pour ne pas ajourner, par exemple, les réclamations si légitimes de son état d'âme, jamais sérieusement compromis, sans doute, mais progressivement influencée par les scrupules séniles de sa conscience villageoise. En ces dernières années, surtout, elle regrettait l'absence des belles fêtes religieuses qui firent l'édification de sa jeunesse, l'exercice du culte en sa langue, les intimes consolations du vieillard, enfin, à l'église de son village. Elle trouva à qui parler de ces choses avec Rose Després, sa nièce, pour cela même tant affectionnée. Jean, pareillement, ne recouvrait pas, tant s'en fallait, dans la célébration du 4 juillet, tout l'enthousiasme de sa foi civique, ni dans la prédication irlandaise l'ardeur de sa foi religieuse, comme aux solennités nationales et paroissiales de sa patrie d'origine. Tocqueville a dit qu'il y a deux patriotismes, celui de l'instinct et celui de la raison. C'est le patriotisme instinctif qui se réveille chez cela, maintenant que le combat de la vie leur permet à loisir, dans son répit, de chercher des regrets. Les lettres du Canada arrivent, on leur demande avidement d'aviver ses impressions. L'œil du cœur se plaît à suivre, à précéder même ceux qui les écrivent dans leur pérégrination sur la terre canadienne. Et l'occupation de chaque jour, qui remplissait si bien la vie heureuse du présent, est traversée des réminiscences de toutes les joies et de toutes les tristesses qui ont précédé cette vie heureuse, laborieusement édifiée à l'étranger. Le présent ne suffit plus. On aime à revenir sur le passé. Pour la vieille dame, parce que le vieillard renonce à l'avenir et suspecte le présent. Pour le ménage, encore jeune et riche d'avenir, parce qu'il peut se féliciter d'avoir su conjurer les mauvais présages du passé. Ces impressions diverses, mal analysées par un chacun de ceux qui les subissent, laissent momentanément, pour synthèse, dans l'esprit de la maisonnée, une attente fébrile du retour des excursionnistes. Plus tard, quand ceux-ci auront bien narré leur voyage au pays canadien, quand on aura tant et plus fait situer leurs impressions et leurs plaisirs, il y aura peut-être détente dans les esprits. Non, pas. les chers petits qu'on a laissés là-bas, y rappelleront sans cesse les cœurs paternels et maternels. Si le docteur et Madame Dupin n'avaient apporté du Canada que des récits de voyages intéressants, semblables à ceux de leurs randonnées européennes, on aurait pu se lasser de les entendre, ce qu'on fait si souvent et si volontiers des récits de voyageurs. Mais ils ont remporté avec eux quelque chose du terroir des ancêtres, son image et son souvenir, choses qui s'attachent à l'âme de l'expatrié, comme la poussière des routes au pied du cheminot. Si le docteur et Madame Dupin se fussent contentés des agréments une fois goûtés de leur promenade pour en causer à l'occasion seulement, on les abandonnerait à leur plaisir. Jean, Rose et la vieille tante s'amuseraient de leur patriotisme de raison, et encore plus de l'abjuration nationale de la jeune dame Dupin, car elle était prise des beautés de la nature canadienne qu'elle n'avait jamais vue, la jeune dame Dupin pourtant si experte dans la passion du tourisme. Mais tout cela intensifie chez eux l'âpre attrait d'en faire une expérience personnelle, pour en venir peu à peu au plus âpre désir de ne pas mourir sans avoir joui encore une fois de ce bonheur. Et pourquoi non? Puisque dans ces foyers si heureux, les exigences de la vie n'ont désormais d'autres objectifs que les meilleurs moyens d'en jouir. On causera souvent de ces projets. Chaque fois qu'une lettre des enfants, aux remarques naïves sur la féerie de l'hiver canadien, s'en viendra raviver à la fois les réminiscences d'Émile et de Jean, ainsi que la verve des deux Canadiennes, aimant à faire à ce sujet l'éducation de la méridionale américaine. La vacance de Noël, de part et d'autre fort impatiemment attendue, ramena au rucher pour quelques jours les saints du Canada. C'est alors que les cœurs battirent de plus en plus vivement au rythme de la mélopée canadienne. On s'ingénia de toute façon, par des récits, des chants, voire même les menus de table, maintenant toujours opulentes, à revivre la vie d'antan, pour les uns, pour les autres, celle des ancêtres inconnus que l'on apprend à chérir. Et quand toutes ces fêtes intimes et vivifiantes se furent rapidement passées, les enfants repartis à leurs études, l'atmosphère familiale resta fortement imprégnée d'un arôme fleurant leur jeunesse actuelle, et pour d'autres, fleurant aussi la jeunesse en allée et la bonne terre natale, arôme toujours prenant au milieu des relents de l'exil. Il y a plus encore. Comme un bacille dans sa culture, ce ferment se développe, se propage et se multiplie dans les esprits, prend mille formes sous la pression des regrets ou des désirs, et une fois à point, il devient morbide. C'est le mal nostalgique. Émile Dupin en est étrangement affecté. Sa vie oisive l'a prédisposé à cette mélancolie. Il se reproche de n'avoir été qu'un météore, qui n'aura fait que passer dans la nuit entre un crépuscule et une aurore. Ce patriotisme de raison qu'il sent croître chez lui, il l'a trouvé dans le berceau de ses enfants. Car si le berceau est une espérance et la tombe un souvenir, son patriotisme de raison vient des berceaux, tandis que celui de Jean, qui est d'instinct, lui vient plutôt de la tombe. Et l'un et l'autre, cependant, n'accordent plus à la vie américaine qui leur a donné l'aisance sociale qu'un intérêt mesquin, incapable de répondre à leur conception nouvelle de la vie, non plus qu'un intérêt provisoire dans un négoce dont l'âme et le cœur se dégagent, comme d'un expédient des jours mauvais. Nous sommes encore des sans-patrie, avait bien dit Émile à son cousin Jean. Quelques années plus tard, n'est-il pas logique qu'ils cherchent tous deux à satisfaire enfin ce besoin, inné pour l'homme social, d'aimer une terre qui gardera avec la cendre et le souvenir de leurs ancêtres des noms vénérés et des mérites personnels religieusement transmis à la lignée de ceux dont ils se seront évertués de préparer l'avenir. Le sol étranger sur lequel ils ont commué leur misère, si généreux qu'il leur ait été, ne saurait conserver ainsi la légende familiale. Or, toutes ces impressions rien moins que définie, crée dans leur existence actuelle un malaise qui en compromet la sérénité. De jour en jour, elles se font moins vagues et finalement se traduisent dans ce beau projet qui sourit à tous et plus qu'à tout autre peut-être, à la grand-mère du pain, une villégiature au Canada, à la suite de cette année scolaire des enfants qui ont tant fait parler naguère des choses canadiennes. Ce fut une exclamation de joie générale dans toute la famille quand Émile, le premier, en émit l'idée. Songez donc, quel bonheur pour Jean d'aller retremper son âme dans l'atmosphère de sa jeunesse, revivre les scènes où il se rappelle avoir tant envié jadis le rôle de son beau cousin américain. Comme il est facile aux deux chefs de famille de communiquer leur enthousiasme à ceux qui les entendent. La nouvelle en est bientôt transmise aux étudiants qui attendront ces beaux jours avec anxiété. Et parce que voilà un objectif immédiat qui précise et fixe leur ennui, les cœurs battent à l'unisson durant ces jours de préparatifs et d'attente dans l'exaltation de l'amour filial remontant à ses origines. Puis, elle s'est faite, cette villégiature. La route du bord de l'eau qui conduit de Kakuna au modeste village de Saint-Germain a plus d'une fois tressailli sous l'équipage bruyant de ses parvenus, comme si elle se souvenait aussi du passé. Bien des fois, tout d'abord, la clameur admiratrice, trop souvent accompagnée de l'envieux cancan, les a suivis dans leurs ébats. Parce que la puissance que donne l'argent n'est pas tout. Aux États-Unis, ce qu'il leur manquait à ces Canadiens enrichis, c'était des relations dans ce milieu où ils n'avaient jamais assez profondément pris racine. Mais n'ayez crainte que la richesse ne les empêche de retrouver les racines qu'ils ont laissées dans le terroir canadien. Jean se rappelle trop bien la bonne impression créée chez lui jadis par la manière affable de son cousin pour ne pas en faire une tradition. Et quand on vit chez tous les parents de Rose des Prés, chez tous ceux qui avaient connu le petit Jean Pellerin et les siens, que leurs mœurs familiales, leurs sentiments patriotiques, leur cœur étaient bien restés des nôtres, l'accueil se fit plus sincère et des plus élogieux. On s'intéressait à les aimer, puisqu'ils étaient toujours si aimants. Souvent, très souvent, durant cette belle villégiature à Kakuna, Jean et Rose venaient, accompagnés de leurs enfants, visiter ce qu'ils appelaient le cousinage de Saint-Germain. Il en coûtait si peu à la puissante voiture automobile que leur avait aussi fournie la généreuse usine de Cincinnati. Quand ils arrivaient à ce pauvre village, par la route qui serpente au pied de la falaise et que la marée fluviale vient lécher ici et là, trois choses attiraient tout d'abord le regard, pour entretenir ensuite leur esprit des heures durant. À droite, dans le lointain du large, l'île sauvage, où se dresse la tour blanche du phare. Tout près de la route, à gauche, avant de donner dans la courbure de l'anse, un lopin de terre sur une colline, qui jadis visiblement fut habitée. Et tout au fond du tableau, sur les côtes, le clocher d'une église, au milieu d'un hameau. C'était le raccourci de leur histoire familiale. Dès leur première visite, Jean, plus vivement suggestionné par ses menus faits topographiques, ne voulut pas en écarter l'impression comme l'on fait d'une tristesse parasite dans un moment heureux. Il la conserva et en fit part aux siens, qu'il conduisit sans arrêt auprès de l'église, à l'entrée du cimetière, où logeait, hélas, ce qu'il lui restait de son foyer paternel, et où pouvait s'aviver encore l'ardeur de son dévouement familial. Il savait bien à quel endroit précis du champ funéraire on avait déposé, un jour inoubliable, la pauvre mère qui le quittait seule dans la vie. Et d'un pas sûr, il alla s'y agenouiller, comme s'il eût eu besoin de baigner un instant son âme dans les larmes de son passé pour mieux remercier la Providence de lui avoir été si propice et ne s'être pas laissé vaincre en générosité. Et sur cette tombe perdue dans les herbages adventices, il pleura en remerciant aussi l'âme trépassée qui lui avait mis au cœur l'ardeur et la foi des croyants et des vaillants. Le lendemain, Une croix de bois neuf se dressait dans les herbes abattues pour accuser ce pieux pèlerinage, en attendant que Jean Pellerin y fît élever un monument trop somptueux pour la mémoire d'une pauvresse, mais digne en tout point du cœur bien-né de son enfant. Les 2 mois de cet enchantement vont-ils satisfaire le grand besoin que nos touristes avaient ressenti de revivre un peu la vie canadienne? Hélas, non. Jean ne trouve plus chez son cousin le jeune homme d'avenir qui impressionna sa jeunesse pour l'éloigner du pays natal. C'est un complice qui, en sous-main, suggère à son esprit un nouvel état de vie pour le rattacher à son passé. À quoi bon trimer durant la vie à la recherche des biens matériels, quand on a déjà acquis l'opulence relative qui pourvoit au lendemain des siens? Malheureusement pour nous, ils sont trop rares les Canadiens français des États-Unis que la nostalgie nous ramène. Diverses causes s'y emploient. Ceux qui ont prospéré y restent attachés par des liens de famille qu'ils ne veulent plus rompre, du style comme la veuve éplorée d'Hector le Troyen, tromper leurs regrets patriotiques et les ennuis de leur exil en se créant aussi un faux 6 mois ou une xante desséchée sur les rivages de l'Ossonie. Mettons plutôt des sociétés nationales de Saint-Jean-Baptiste dans des petits Canadas. D'autres, pour avoir déserté la vie canadienne, traînent dans une misère relative la chaîne de leurs désillusions, incapables d'en secouer l'étreinte. D'autres, enfin, et c'est le plus grand nombre peut-être, mal prévenus par le défaut d'instruction, ne connaissent pas les délicatesses de cœur qui ont pu entretenir ou réveiller le sentiment national chez les Dupin et les Pellerin. Ici, sur cette colline de Saint-Germain, où l'œil des anciens peut retrouver les restes décrépits d'une masure aux pignons rouges, quel beau chalet! Un château, si vous voulez, ne pourrait-on pas édifier, donnant vue si large sur le grand fleuve, en face du phare indiquant la route à suivre pour affronter les périls de la mer, comme il en est aussi au milieu des écueils de la vie. Ce beau soir d'été, quand seul avec lui, à l'endroit isolé de la grande route vicinale où vivaient autrefois si intimement les pauvres familles de la veuve Pellerin et de Charles Després, Émile Dupin fit cette remarque à son cousin Jean. Le mal nostalgique s'empara à demeure de celui-ci. La tombée de la nuit se fait douce et impressionnante. De ces lieux autrefois si familiers, aujourd'hui redevenus presque sauvages dans l'abandon et la pauvreté, Jean voit surgir le fantôme de sa jeunesse aux traits si peu riants. Il en reconnaît toutefois, il en aime la candeur. Il l'associe au souvenir des siens, auxquels il voudrait demander pardon de sa vie meilleure dans la restauration matérielle à l'étranger. Sa figure s'assombrit, il regarde son cousin d'un œil qui va pleurer, lorsque tout à coup, l'éclat subit du phare pénètre son esprit comme un coup de poignard dans ses chairs vives. Oui, c'est bien sa jeunesse, c'est l'âme et la tradition de ses ancêtres, c'est la patrie qui le rappelle en ces lieux. Cet œil du phare, oui, c'est bien l'amour du sol natal qui brille d'un éclat de plus en plus vif à mesure que les ombres s'épaississent à notre horizon, qui traverse la nuit de nos vicissitudes au vieil âge et nous indique le port du repos éternel où nous attendent les ancêtres. L'Américain, avec son patriotisme travesti, pourra désormais, revenu chez lui, sous la fumée des usines où s'élabore son bien-être, accuser de son ennui la récurrence plus ou moins rapprochée, sur ce propos raisonné encore et philosophé. Mais Jean et sa femme, pour avoir exhalé la sensation, le sentiment de leur bonheur sous le ciel bleu de la patrie, ne sauront plus qu'en mourir. Ainsi donc, en résumant ces 2 états d'âme, Émile Dupin, malgré sa richesse et son aisance innée, avec ses études et sa sagesse naturelle, ne pouvait plus s'empêcher de constater de mieux en mieux, à la vue de ses enfants grandissants, que l'âme ancestrale de sa famille ne s'était pas acclimatée au pays étranger, qu'elle était restée là-bas sur cette terre canadienne où il n'avait fait lui-même que passer, mais où elle avait provigné depuis 200 ans, où elle avait poussé ses plus fortes racines dans tant de berceaux et fleurissait encore sur tant de tombes. Et de mieux en mieux il comprenait, comme il l'avait dit, que lui et les siens ne seraient de longtemps encore que des dépaysés dans leur patrie adoptive. Sa nostalgie, à lui, tient du patriotisme de raison. Jean Pellerin, au contraire, n'a vécu au Canada qu'une enfance malheureuse et une jeunesse humiliée. Quand il a quitté sa paroisse natale, il aurait pu se dire qu'il secouait sans regret de son pied la poussière de ce sol qui lui avait été si pénible. Plongé dans le grand creuset de la vie industrielle, au milieu d'un alliage auquel il devait tant emprunter, combien il lui avait été facile d'éliminer la gangue de sa pauvreté canadienne. Pour lui, peut-être plus encore que pour son cousin, il serait logique d'affectionner le milieu social où il lui fut donné de commuer sa tare de miséreux dans le bonheur du parvenu. Mais au fond de son cœur, comme dans l'âme et la prière de sa femme, la voix douce et charmeresse de sa patrie canadienne n'attendait plus, pour le faire entendre et commander, qu'un retour même passager, et par leurs enfants, aux choses canadiennes, sous l'emprise du patriotisme d'instinct. Chapitre 14. Sous l'œil du phare. On résiste malaisément aux attirances de l'amour-propre. Une des formes multiples sous lesquelles s'accuse la griserie de cet orgueil est celle que l'on trouve dans l'adulation des siens. C'est peut-être ce qui faisait dire à l'ancien Romain qu'il préférait le premier rang dans une bicoque au deuxième à Rome. Dans le milieu social où ils sont venus vivre pour s'enrichir, les Pellerins et même les Dupin sont restés confondus parmi un trop grand nombre de gens auxquels ils n'en sauraient imposer, ni par leur mérite, ni par leurs capitaux. Par ailleurs, les déférences de leurs subordonnés et ouvriers à gages peuvent leur paraître trop intéressées pour satisfaire désormais leur amour-propre. L'amour-propre est à l'esprit ce que la sensibilité physique est au corps. Ou, comme l'on a dit encore, c'est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on y fait une piqûre. D'avoir, pendant quelques semaines, été l'objet d'une admiration béate, du haut de leur superbe, avoir jeté des regards même généreux et compatissants sur des compatriotes exposés à l'envi, sans leur tourner la tête, les avait rendus plus sensibles aux piqûres de l'amour-propre. Le vent de cet orgueil ne soufflera pas en tempête, mais il élèvera autour d'eux, comme une poussière, mille susceptibilités et vétilles qu'ils auraient autrefois négligées, et qui assombriront maintenant l'atmosphère de leur vie américaine, pour leur faire regretter la vision si claire de la vie canadienne. Au reste, ce serait les calomnier dans leur nouvelle disposition d'esprit de laisser croire que c'est là leur unique regret. Nous savons bien que d'autres forces concourent à cette résultante. D'autres influences plus estimables aggravent chez eux, en la légitimant, la nostalgie. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu le temps, ou n'ont pas voulu affronter le tourment d'y songer d'une manière pratique. N'avaient-ils pas assez de pourvoir au succès économique qui assure les loisirs après avoir dissipé les inquiétudes sur l'avenir? Quand Émile émettait ses idées d'intellectuel, cherchant une survie dans sa race plutôt que dans ses biens, Jean lui prêtait une oreille distraite, comme au savant qui aime à parler. Le cœur n'applaudissait pas encore à ses dires. Aujourd'hui, c'est le cœur qui s'impressionne, parce qu'il est atteint. Aeret lateri letalis arundo. Et de jour en jour, l'on s'apercevra que le pauvre Jean, de même que son épouse, ne sont pas tout à fait revenus de Saint-Germain. Suivant la promesse qu'ils en ont faite, ils s'occupent sans plus tarder de l'édification du mausolée qui ornera bientôt, au cimetière de leur paroisse natale, la sépulture de leurs parents. Ce soin pieux entretient à leur esprit, un peu comme un reproche, le souvenir de ceux qu'ils avaient tant aimés et n'ont pu retrouver avec tout ce qui faisait l'objet de leurs souvenirs canadiens. Le legs que le bon vieux pasteur avait fait au jeune ménage pèlerin n'a certes jamais été oublié. Il y a beau temps que Jean l'a remboursé de ses premières économies au profit des œuvres paroissiales dont on parlait jadis. Mais cela ne suffit pas encore à sa reconnaissance, qui réclame davantage, de concert avec son amour filial. À l'église de Saint-Germain et sur la tombe de Cécile Dubreuil, les villageois conserveront quelque chose de l'admiration que provoqua chez eux le retour fastueux du couple autrefois émigré pauvre. Tous les enfants sont au Canada. Les demoiselles Estelle Dupin et Jeanne Pellerin au pensionnat des dames Ursulines de Québec. Et les jeunes gens, l'aîné Dupin et les deux fils de Jean, au séminaire Laval. Avec ces morts qui revivent plus intensivement à leurs pensées, avec la colonie juvénile encore plus nombreuse cette année, des Dupins et des Pellerins qui vont s'instruire et s'imprégner de l'esprit canadien, c'est une sève de plus en plus canadienne qui s'élabore dans la vie de ceux qui sont revenus à l'étranger. Mais quand elle monte dans les cœurs, c'est pour les étioler. Les deux familles transplantées ne font plus que languir. L'industrie Bridging and Steelworks, corps sans âme, ne souffre aucunement de ces malaises. L'impulsion donnée par les nouvelles méthodes est en plein rapport. Le rendement s'améliore, les dividendes s'accroissent, la force acquise, pour ainsi dire, travaille seule à l'accumulation de la richesse. Par contre, les deux cousins, qui n'auraient plus à s'inquiéter du souci des choses extérieures, voient s'introduire au milieu d'eux un hôte inaccoutumé et malencontreux, la maladie. Le docteur Dupin n'a pu s'empêcher de constater que, chez Jean, durant ces derniers mois d'automne, l'activité de l'esprit, où s'entremêlent les réminiscences et les regrets des choses canadiennes, est devenue morbide. Aussi longtemps que, suivant l'expression pittoresque de Lacordaire, tout l'effort de ses facultés s'est tenu vers l'idolâtrie de son avenir, Jean a vécu dans l'entraînement de cette foi en ses espérances. Aujourd'hui, c'est le culte du passé qui le rappelle, et auquel il revient, sans lui apporter sans doute le remords d'une apostasie, ce qui serait beaucoup trop dire, mais un esprit et un cœur dégoûtés du présent. Malgré tous les éléments de bonheur dont la Providence l'entoure, il n'est pas heureux. Il n'est pas satisfait de les voir acquis. Il souffre encore du gré d'en disposer. Si cet effet moral ne lui causait qu'un ennui, il n'aurait qu'à chercher l'antidote dans la richesse. Or, il y a plus qu'un effet moral et qu'un ennui. 20 années de surmenage intellectuel et physique ont fait de lui un débile. Cette vigueur trop ardente, qui déjà s'était prodiguée au cours de ses premiers travaux scolaires, et qu'Émile avait si bien restaurée jadis avec les plaisirs du yachting. Elle a eu beau jeu dans les activités industrielles, et Jean n'est plus qu'un neurasthénique, dont l'esprit se prépare à reconnaître qu'il ne peut y avoir ici-bas de bien-être parfait sans la patrie. Le docteur Dupin, sympathique et averti, ne devait pas, croyez-le bien, s'en désintéresser. Il prodigue à son patient non seulement les ressources de son savoir, mais principalement celles d'une affection jamais démentie. Car les prodromes de cette maladie, ils sont là aussi dans son propre cœur. « Mon Jean, lui dira-t-il un jour confidentiellement, sais-tu bien ce qu'il nous manque à tous deux, à cet âge où nous avons déjà assez longtemps vécu pour moins regarder en avant qu'autour et en arrière de nous? C'est de l'espace. Nous étouffons dans un cercle d'idées et une sphère d'action devenue trop restreint, avec tous les moyens à notre disposition d'en sortir. C'est la stagnation qui fait d'un riche imbécile un avare et d'un homme d'esprit, que nous voudrions être, un parasite ennuyeux. Ces fourneaux qui fument dans l'air, cette force industrielle, notre pierre philosophale, qui convertit pour nous du minerai de fer en or, n'exigent pas que nous les regardions faire jusqu'à la fin de nos jours. Il y a de l'espace, beaucoup d'espace sous le ciel du bon Dieu. En dehors, au-dessus de cette atmosphère tout imprégnée d'intérêts mercantiles, où notre âme, obéissant à ses plus nobles facultés, aimerait à planer. Qu'en dis-tu ? Laisse-moi sourire à l'évocation d'un souvenir de jeunesse. J'ai cru entendre mon vieux précepteur qui trouvait deux êtres chez l'homme. Celui-là qui vivait comme toi, altéré d'espace, il l'appelait l'ange. Et l'autre ? Puisqu'il est peut-être plus impérieux chez moi, j'en garde le secret. Tiens, je connais assez ta manière maintenant pour comprendre que tu as quelques projets nouveaux à me proposer. Voyons, dis-moi cela, je le veux bien, car jusqu'à présent je n'ai eu qu'à me louer de tes projets nouveaux. Des projets définis ? Non. Des lubies fantaisistes pour commencer ? Peut-être. Et si à la suite nous rencontrons des projets, tant mieux, cela nous amusera et pourrait te guérir de tes ennuis hypochondriaques. Bien. Moi, sais-tu, j'aimerais revoir de la neige canadienne. Oui, de la vraie neige, non pas de ce grésil que l'on trouve un matin comme un déchet, presque une ordure, sur le sol de certains États américains, qui roule sous le pied, qui déplaît autant que l'eau d'une averse intempestive et que le soleil du midi a tout fait de dissiper. Mais la belle neige canadienne, tombant à demeure toute la journée grande en cristaux multiformes pour protéger vos champs de son édredon contre les cruelles froidures et pour s'affermir dans les routes, douce et crissante sous la lisse des traîneaux. J'ai cette fantaisie-là d'aimer la neige canadienne. Et toi ? Et moi ? D'aimer un médecin qui met de la poésie dans ses prescriptions. Ta neige canadienne, elle ne manque pas à cette date sur les rives du Saint-Laurent. Perfide, va. Va donc pour la perfidie qui a déjà le bon effet de te réjouir. Ma femme a vu les neiges alpines, mais elle n'a pas encore vu celle de Saint-Germain de Kamouraska. Pouvons-nous lui laisser ignorer cela, mon cousin ? Nos enfants, dans leur collège et leur couvent canadien, comptent anxieusement les jours qui leur apportent les vacances d'hiver. Si nous allions les y surprendre pour les ramener avec nous, je suis sûr que tu aimerais à te rappeler sur place tes prouesses de beau racketteur. Jean, ainsi pris au dépourvu et charmé comme un enfant, sourit et acquiesce. Toute la maisonnée s'égaye de cette détermination. Car maintenant que tous les enfants sont aux études, ces deux foyers n'en font plus qu'un, où les trois amours maternels souffrent en commun de leur absence. La vieille maman et sa nièce affectionnée sont généreuses. Elles secondent de toute leur joie, même affectée, les préparatifs de cette promenade dont elles ne seront pas, assez heureuses déjà de son effet anticipé sur ces deux vieillards avant l'âge, qui momentanément ne songeront plus à mourir d'ennui. Ils sont nombreux les touristes des États-Unis qui visitent Québec durant les jours d'été. Confortablement installés dans l'une des pièces somptueuses du château Frontenac, nos trois citadins de Cincinnati, en cette fin de décembre, se demandent pourquoi on n'y viendrait pas avec autant d'intérêt et de curiosité en hiver. De son boudoir, nid d'aigle qui domine, et la falaise et la rade, Madame Dupin, avec son mari, voit donc la belle neige canadienne, sur les hauteurs de Lévis et de Lauzon, sur les coteaux déboisés de l'île d'Orléans, la large batture de Beauport, et entre les contreforts des Laurentides, scintiller à perte de vue sous la lumière sans chaleur des matins, ou le rayonnement encore plus refroidi des astres qui constellent la nuit. L'enchantement leur met dans l'âme quelque chose de cette clarté blanche qui illumine et purifie les idées. De son côté, Jean Pellerin est autrement impressionné. La féerie naturelle qu'il a sous les yeux évoque vivement à son esprit le jour, depuis longtemps oublié durant sa vie de travailleur, où il était venu y rêver, comme on rêve à 20 ans. Déjà la veille, à quelques pas de ce château, au parloir de l'institution où il a revu sa fillette que l'on prépare aux vraies jouissances du bien-vivre, le fantôme de son premier amour a voulu lui apparaître, mais il le fuit comme l'ont fait les fantômes. Et comme il y a 20 ans, il lui tarde aussi de fuir ces lieux qui se prêtent à leur apparition. Cependant, ce n'est pas avec le désespoir au cœur et les larmes aux yeux qu'il veut partir cette fois. C'est avec horreur, d'un sentiment d'orgueil trop prenant, dont son état de vie actuel et le sort si enviable de sa famille lui offrent la tentation. Il n'est pas venu se venger de son mauvais sort d'antan, mais jouir de la récompense providentielle de ses mérites. Émile Dupin, qu'il met au courant des scrupules de son humilité, l'admire et travestit ses déboires de jeunesse sous la plaisanterie. C'est une heureuse diversion, car ces jours-ci, au village, la chronique locale leur apprendra assez tôt que le gendre du riche monsieur Brillant, pour n'avoir pas voulu renoncer à l'art, n'est qu'un professionnel aussi pauvre que raté. Heureusement, de ces vicissitudes de la vie, Jean va plutôt trouver à s'édifier qu'à s'enorgueillir. S'il veut bien rire aujourd'hui avec son cousin du mécompte de son premier amour, il a la charité de ne rien sacrifier à la rancœur, et bénit le ciel qui lui a ménagé dans la pauvreté de la famille des Prés son incomparable bonheur domestique. Les survivants de cette famille des Prés ne sont pas nombreux. Une vieille maman, une fille de moitié dans tous les travaux et les soucis du foyer, et un bon fils héritier de la bicoque et du bachot paternel, qui pourvoit à la subsistance de sa mère et de sa sœur avec l'aide discrètement dissimulée des parents riches des États-Unis. Réplique de son foyer natal que Jean retrouve avec attendrissement. La villégiature récente à Kakuna, au milieu de l'affluence des touristes et des amusements de chaque jour, ne lui avait pas permis de reprendre contact avec ses mœurs, de revivre cette page aussi fidèlement vécue de son passé. Mais dans ce pauvre logis tapis sous les neiges et les glaces du rivage laurentien, il revoit sa jeunesse incertaine de l'avenir. Il prête l'oreille de son cœur aux échos de l'amour filial qui lui arrive de tous côtés. Pendant que les femmes, au verbe terre à terre, s'entretiennent de la chronique comparée des choses et des usages, au grand émerveillement naïf des unes et à la verve satisfaite de l'étrangère, les trois hommes, plus pratiques, dans l'entretemps des visites ici et là, chez les gens du village, qui s'honorent de leur ouvrir et leur porte et leur cœur, les hommes vont s'occuper d'un projet qu'Émile et Jean laisseront, en partant, bien défini cette fois. Les deux cousins n'ont pas oublié qu'un soir de l'été dernier, ils ont fait le rêve d'un châtelet bâti sur le coteau voisin, là où de pauvres ruines affleurent encore au ras du banc de neige. Or, décidément, la villégiature annuelle aux rives du Saint-Laurent restera désormais comme un besoin dans leur vie. Ce besoin nouveau n'est pas celui du « summer resort » à la mode que l'on trouve un peu partout à de si distantes latitudes sur le vaste littoral américain. Besoin le plus souvent factice, accusé par la vanité. Mais celui qu'agrémente l'amour filial ou le sentiment patriotique. Et ils ont appris maintenant, ces deux hommes assagis par l'âge et favorisés par la fortune, que ce sentiment vivifie les cœurs, non pas là où l'on vit bien, mais là où l'on a appris à aimer. La tradition familiale oblige aussi, comme la noblesse. L'idée d'avoir un pied-à-terre au Canada, et pas ailleurs qu'à Saint-Germain, à l'écart du snobisme étranger, dans l'intimité de la parenté, occupe déjà l'esprit d'Émile et de Jean, mieux qu'à l'état de projet même défini. Pendant que ces dames en causent pour en causer, eux étudient les aspects, dressent des plans et crayonnent des devis de construction moderne qui émerveillent le fils Charles Després. Assises bétonnées, structures métalliques, lambris d'amiante, que de choses nouvelles peuvent concourir à l'édification rapide du châtelet, dont les pièces arriveront sur place toutes préparées et qui s'élèvent par enchantement dans leur imagination pour recevoir ses hôtes au premier jour de la prochaine vacance d'été. Charles Desprez sera le fondé de pouvoir. Dès que la neige fondue au soleil du printemps aura laissé à découvert le sommet de la colline, sous ses ordres, les terrassiers ranimeront les décombres de l'ancienne maisonnette aux pignons rouges. Un peu plus tard, des plantations décoratives prendront racine dans le pauvre terroir que Jean spécialisa jadis de ses premiers travaux et de ses premières peines. C'est mieux qu'une idée, mieux qu'un projet. C'est un secret qui va bientôt chasser l'ennui stagnant au fond des esprits. Une qui en sera surprise et heureuse, c'est Rose Desprez, la bonne enfant et la bonne mère, ainsi récompensée de n'avoir jamais demandé au ciel d'autre bonheur que celui des siens. L'arrivée des excursionnistes et des jeunes étudiants rappela la joie au double foyer de Cincinnati. La santé brille maintenant sur tous les visages rassérénés. Qu'il est donc vivifiant l'air du pays natal. Et puisque dans le bonheur comme dans le malheur, les secrets sont importants, puisque la correspondance est plus fréquente et plus intéressée avec les parents du Canada, ne nous étonnons pas si le beau secret d'Émile et de Jean n'est pas de longue durée. Voilà de quoi causer. Et tout l'hiver, on en causera, en attendant que les ingénieurs et les architectes de l'usine Cincinnati, Bridgin and Steelworks, en un tour de main, en fassent une commande à livrer. Sur la colline de Saint-Germain, au premier beau jour d'avril, des travailleurs étrangers s'agitent. Les alignements et les fouilles intriguent la curiosité villageoise, qui s'émotionne davantage à mesure que par le chemin de fer arrivent les pièces de la structure toutes prêtes et que bétonnage et armature sortent de terre. Enfin, de part et d'autre, on a si bien travaillé et si bien glosé qu'au jour de la fête nationale de Saint-Jean-Baptiste, les portes du castel s'ouvraient à l'entrée de ses maîtres, tandis que la badauderie critique des curieux remontait au village pour s'y transformer peu à peu en une admiration envieuse. Ce soir-là, sous les yeux des rapatriés, la vieille dame Dupin, les deux cousins et leurs femmes, réunis sur la terrasse de leur somptueux logis, la grande nature canadienne a étalé toute sa splendeur. Depuis l'arête des Laurentides, que le soleil couchant dort de ses rayons alanguis, jusqu'au contour de la pointe sèche, les dernières ardeurs du jour et les premières ombres de la nuit folâtrent sur 20 000 dos de mer, de même qu'autour des îlots, et plus près encore au pied de l'écran de pin vert qui masque la montagne ronde. Les jeunes cousins et cousines, dans l'exubérante gaieté de la jeunesse au sortir des pensionnats d'études, trouvent tout en beauté dans ces êtres nouveaux, auprès de parents chéris dont ils ont durant de si longs mois regretté l'absence. Sur le rivage, maintenant dégagé de la triste bordure de cran que la dynamite a pulvérisée, où le flot de la marée s'épand sur des sables fins, ils s'ébattent, ces jeunes, plus allègrement à l'air salin du large que dans l'atmosphère fumeuse et le parc fleuri de leur « home » américain. Jean les regarde avec tendresse. Il se rappelle le jour où, fier aussi, lui, de ses débuts scolaires, là même, et seul sous le regard de sa pauvre mère en deuil, il livrait à la brise du soir les premières aspirations de sa vie. Et cette vie, qu'il a faite et promenée sous des cieux étrangers, emprunte à la candeur de sa jeunesse retrouvée chez les siens, une émotion délicieuse et reconnaissante qu'il voudra faire durable. L'arpent de terre que tout enfant il arrosa de ses sueurs en lui demandant de suppléer aux oublis de la charité publique, il le couvrira, l'entourera de fleurs comme on fait d'une chose sacrée. Ce coin de terre, il croyait ne lui avoir laissé que les misères de son enfance et les humiliations de sa jeunesse. Il se trompait. Il y était resté quelque chose de son cœur, dans la cendre des siens comme dans l'air qu'ils avaient aspiré, et dans tous ces endroits familiers qu'ils avaient longtemps animés de leur vie. Avec tout ce qu'il aime sur la terre, Il lui a donc rapporté sa richesse laborieusement acquise. Mais ce n'est pas assez. Attendez. Il lui donnera encore les derniers jours de sa vie. Parce que de tout ce qu'il y voit aujourd'hui, se dégage comme un parfum d'idéalisme que l'on chercherait vainement ailleurs dans le même bien-être matériel et qui prépare l'âme au surnaturel dont elle s'assoiff aux approches de la mort. Les éclats de voix des jeunes, la conversation animée des autres auprès de lui, ne peuvent écarter de son esprit ses graves pensées. « Ne croirait-on pas, dit Émile, que nous avons oublié Jean dans la Miller Street, il est peut-être retourné à ses ateliers, ou regrette de ne pas entendre d'ici le ronflement de ces hauts fourneaux qui font sa vie ?» En ce moment, au faîte de sa tour blanche, le phare s'allume. À la demi-minute, il projette un éclat que l'on dirait de plus en plus vif, dont s'enflamme sur la rive au sud le vert des deux tourelles rouges, qui flanque en encorbellement la façade du Châtelet neuf. Comme si l'âme familiale des pèlerins, à jamais consolée, n'y était revenue veiller avec lui dans la nuit pour chasser désormais de ces lieux les esprits nocifs qui causent les sinistres et les deuils. Ce jet de lumière fatidique se reflète du même coup dans l'œil et dans l'esprit de Jean qui s'émotionne, et on vient à comprendre que si un ange céleste veille sur l'avenir des familles, il est une âme aussi qui fait battre d'un rythme spécial le cœur des races. « Douce lumière, pense-t-il avec le poète, mon cœur à ta clarté s'enflamme, je sens en moi des transports inconnus, je songe à ceux qui ne sont plus. Douce lumière, es-tu leur âme ?»